24 heures dans le Pacifique.
Wantem Pierre Rion.
Mesdames et messieurs, un grand bonjour. Nous parlerons aujourd'hui d'un éducateur qui mène campagne pour que les familles du Pacifique installées en Nouvelle-Zélande parlent à leurs enfants en anglais à la maison. Les langues vernaculaires, affirme-t-il, sont un frein à l'éducation. Nous évoquerons également la mésaventure d'un pilote d'hélicoptère en mission sur un bateau de pêche taïwanais qui atterrit sans autorisation à Nauru pour s'acheter quelques friandises. Mal lui en a pris, le pilote a été interpellé par la police et risque de perdre son permis hélicoptère. Et puis le gouvernement australien toujours empêtré dans la question des demandeurs d'asile. Pour couronner le tout, un rapport fustige maintenant la gestion des centres de rétention en Australie. Danny Tolovae est éducateur auprès du Pacific Island Community Trust, une association pédagogique dans la ville de Tauranga sur l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. Et il estime que certains enfants du Pacifique peinent à l'école faute de bien maîtriser la langue anglaise. Monsieur Tolovae demande aux familles du Pacifique qui se sont installées en Nouvelle-Zélande de parler anglais à leurs enfants à la maison pour éviter, dit-il, l'échec scolaire. Nous lui avons demandé des explications.
Bien, personnellement, je pense que les enfants devraient maîtriser la langue anglaise et ce, tout au long de leur vie, ils devraient apprendre l'anglais depuis le primaire jusqu'à l'université. Mais la plupart des parents rechignent à renoncer à leur langue. Ils disent à leurs enfants d'aller à l'école. Mais quand les enfants reviennent à la maison, ils parlent la langue maternelle. Il y a donc confusion chez les gamins qui doivent maîtriser non seulement l'anglais, mais aussi la langue maternelle ou je ne sais quelle autre langue du Pacifique.
Mais quel est l'impact de cette confusion sur la scolarité de ces enfants? Ce qui arrive, c'est qu'ils restent à la traîne. Les écoles demandent aux parents d'aider leurs enfants, mais les parents ne comprennent pas bien l'anglais, la langue que doivent apprendre les enfants. Alors, ils renvoient les enfants vers les profs, et les profs disent, il n'y a pas 36 solutions, ou vous apprenez, ou vous n'apprenez pas. Alors, ils restent à la traîne. Pourtant, des enseignants nous ont précédemment affirmé que la connaissance d'une langue vernaculaire, d'une langue du Pacifique, permettait de mieux comprendre l'anglais. J'ai entendu des choses similaires. Quand vous étudiez deux langues, votre anglais s'améliore. J'ai entendu ce scénario, mais je ne sais pas où ils ont été prendre leurs informations. Que propose donc Danny Tolovae? Apprendre l'anglais ou le tongien, l'anglais ou le maori, l'anglais ou le samoan, mais pas les deux? Non, les gamins peuvent apprendre les deux, mais l'anglais est une langue internationale. L'anglais est couramment parlé. L'anglais est la langue la plus importante qu'un gamin devrait apprendre. Certains gamins viennent de milieux défavorisés et ils devraient avoir l'opportunité de l'apprendre, l'anglais, quand ils sont à l'école et quand ils sont à la maison. Pour Danny Tolovae, les enfants ont plus tard dans la vie l'occasion de retourner dans leur île et de renouer avec leur langue maternelle. Alors pour lui, c'est l'anglais qui doit rester la priorité pendant le cycle primaire et secondaire. Nauru, un coca très onéreux pour un pilote d'hélicoptère. C'est en survolant l'île de Nauru que ce pilote, en mission sur un bateau de pêche taïwanais, a aperçu l'enseigne d'une supérette proche d'une plage, le moment ou jamais de faire le plein de coca, de boissons gazeuses, de chocolat. Le pilote, un ressortissant australien résident en Nouvelle-Zélande, décide donc d'atterrir sans autorisation pour faire le plein de friandises à ce supermarché. Il finira au poste de police. Les explications de Rod Henshaw, le porte-parole du gouvernement de Nauru. Apparemment, il a dit à la police quand il a été appréhendé qu'il venait de passer 75 jours en mer et qu'il n'en pouvait plus. Le bateau était à 30 milles au large de Nauru. Il a pris son hélicoptère, un deux places et un passager, un chinois, pour faire un tour et voir s'il y avait des magasins. Un hélicoptère qui atterrit à Nauru, ça attire l'attention, celle de la police notamment, qui a décidé d'intervenir. Le pilote leur a dit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait et qu'il rejoignait le bateau maintenant, merci pour tout. Mais les policiers lui ont dit que ce n'était pas aussi simple que ça. L'hélicoptère a été saisi, tout le monde a été embarqué et c'est ensuite que l'interrogatoire s'est déroulé, a commencé pour savoir ce qui se passait. En fait, un atterrissage sans autorisation est une faute grave à Nauru et le pilote risquait d'être poursuivi en justice et une amende également pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars. Mais selon Rod Henshaw, le gouvernement a maintenant renoncé aux poursuites judiciaires. La facture reste toutefois salée. Rod Henshaw. Ils ont décidé de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. La société propriétaire de l'hélicoptère a accepté de payer les 4 000 dollars de droits d'atterrissage
d'atterrissage, le prix normal d'un atterrissage, et une lettre officielle de protestation sera déposée auprès des autorités néo-zélandaises de l'aviation civile pour réclamer le retrait du permis du pilote de l'hélicoptère. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir désolé pour ce pilote qui a de bonnes chances de perdre son permis, mais aussi son job. La morale de cette histoire, si vous êtes pilote d'hélicoptère et que si vous avez soudainement une furieuse envie de coca, remplissez tous les formulaires requis avant d'atterrir et de foncer à la supérette locale. Le mot de la fin à Rod Henshaw qui garde son sens de l'humour. Ou vous pouvez devenir demandeur d'asile, vous serez très bien traité ici, nous dit-il. Mais alors en fait, est-ce que le pilote a pu garder son coca et ses chocolats? Je pense que oui, je pense qu'il a pu. Eh bien, revenons en Australie à présent avec un rapport qui fustige les centres de rétention. C'est l'opposition qui a réclamé ce rapport au nom de la liberté de l'information et c'est Comcare, l'agence gouvernementale pour la sécurité sur les lieux de travail qui a mené l'enquête et rédigé ce brûlot qui dénonce l'absence systématique de formation pour un personnel jugé sous-qualifié, personnel qui n'est pas en mesure, par exemple, de gérer ou de maîtriser les menaces constantes de violence, les protestations et les actes d'automutilation. Tandis que ce rapport met en évidence une situation jugée dangereuse, un nouveau bateau avec plus de 100 réfugiés est arrivé au centre de rétention de Christmas Island, un centre d'ores et déjà surpeuplé. Il s'agit du 4e bateau depuis la signature de l'accord d'échange avec la Malaisie. À ce propos, le gouvernement devra encore attendre près de 15 jours pour connaître la décision de la Haute Cour concernant cet accord d'échange en vertu duquel l'Australie enverra 800 demandeurs d'asile en Malaisie et accueillera en échange donc 4000 réfugiés jusqu'alors bloqués en Malaisie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne continuation.